France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Et par ces temps de confinement et autres couvre-feux, nous allons vous donner l'occasion, à vous les auditeurs, de faire une belle rencontre ce matin, ce qui est devenu rare. Une rencontre, la rencontre, une philosophie, c'est le thème de votre livre paru chez Alary Éditions. Bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Faut-il rappeler que vous êtes philosophe, romancier? Alors c'est un livre sur le mouvement de la rencontre, hein, ça part de notre intérieur jusqu'à notre extérieur, on va en reparler, mais au départ, vous l'écrivez au début de ce livre, hein, la rencontre, ça commence, dites-vous, par un choc, c'est-à-dire...
C'est un petit choc qui vient faire bouger les lignes intérieures de mon identité, qui vient, heureusement, il était temps, fissurer ma carapace identitaire et me laisser deviner que l'essentiel n'est pas en moi, mais hors de moi. C'est-à-dire... Le poète René Char disait joliment qu'il faut savoir s'établir à l'extérieur de soi pour espérer devenir soi. Et j'ai écrit ce livre parce que ça m'avait semblé assez lassant de voir l'invitation de l'époque à être soi, à être fier de soi, à être bien avec soi. Il me semble que la clé de la rencontre de l'autre, c'est d'avoir une forme d'intranquillité, de pas être assez bien chez soi, au sens dans son identité et ses habitudes et ses certitudes, et de sentir ce besoin comme ça de se risquer dans l'aventure de l'extériorité. Et il me semble que la seule façon de devenir soi, c'est de sortir de soi. Figurez-vous d'ailleurs que c'est le sens étymologique de l'existence. Hein. Exister, c'est aller hors extérieur. De soi pour se trouver, mais à l'extérieur.
C'est d'ailleurs toujours un peu la même chose en philosophie. D'ailleurs, il s'agit de nous aider à chaque fois à nous rencontrer nous-mêmes.
Oui, mais ce que j'explique dans le livre, c'est que on peut pas parler de rencontre de soi sans la relier à la rencontre de l'autre et même aussi à la rencontre du monde, figurez-vous. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez une vision du monde qui n'est pas la vôtre. Et vous avez cette chance comme ça de voir le monde avec d'autres yeux que les vôtres, d'entendre une musique avec d'autres oreilles que les vôtres, d'écouter un débat polémique avec aussi une autre sensibilité que la vôtre. Et tout ceci participe d'un agrandissement, au fond, de l'intériorité qui est pour moi la vraie vie.
On ne peut pas se construire s'il n'y a pas l'autre. L'altérité, elle est absolument essentielle à l'être humain depuis qu'on est bébé.
Exactement, et pour une raison d'ailleurs assez intéressante d'un point de vue anthropologique, c'est qu'on est des grands prématurés. On est parmi les mammifères évolués, ceux qui sont les plus prématurés. Ce qui veut dire qu'à la naissance, il y a quelque chose qui manque. Alors du point de vue des embryologistes, il manque quelques mois de gestation aux cellules de l'embryon. Et donc, nous allons, pour nous parachever, pour terminer ce travail que la nature a laissé inachevé, nous avons besoin de rencontrer les autres. C'est ça qui est très paradoxal. D'une interaction, et c'est comme si, c'est un peu violent d'ailleurs, nous sommes jetés au fond, hors de nous-mêmes, dans cette aventure de la rencontre. Et on sait bien, Boris Cyrulnik a beaucoup travaillé là-dessus, par exemple, en reprenant les théories de l'attachement, qu'un jeune enfant qui n'aurait pas ces relations-là, qui ne rencontrerait pas assez les autres,
et
ne pourrait tout simplement...
Et ça arrive à certains enfants, il pourrait pas vivre.
Non, il pourrait pas survivre. Mourir. Il pourrait pas survivre. Et c'est pour ça que j'ai construit mon livre autour de l'affirmation d'un philosophe un peu oublié, Martin Buber, qui dit que la vraie vie est rencontre. Et ça, c'est très important à comprendre. Ça veut dire que la rencontre n'est pas simplement quelque chose de... C'est pas un plus, c'est pas simplement agréable ou intéressant. C'est vital, c'est le cœur, au fond, d'une existence humaine.
Martin Buber, philosophe israélien, le jeu et le tu, hein, en 1920, je crois. Vous citez René Char. Il y a aussi une lecture existentielle hein, de la rencontre dans votre livre, quand Sartre nous invite à nous libérer de nos zones de confort pour aller à la rencontre de l'autre. C'est une lecture, une vision donc existentielle.
Ouais. Ça veut dire que pour ça, si vous voulez, c'est très intéressant pour nous aider à sortir de chez nous, à sortir de nos routines, de nos habitudes. Sartre nous explique que la liberté se conquiert hors de soi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, à l'intérieur de soi, il n'y a pas un noyau qui fait que moi, je suis moi. Or, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire ça avec toutes ces tentatives, de repli identitaire. On voudrait nous dire que l'essentiel de ce qui fait que toi, tu es toi, ce serait quelque chose qui est en toi, qui est ton identité ou ton noyau, on pourrait dire. Eh bien, ce que montre Sartre, c'est qu'à l'intérieur de chaque sujet, il y a ce qu'il appelle le néant. Alors ça pourrait faire peur, mais le néant, ça veut dire que je peux m'inventer à travers les rencontres, à travers ce que Sartre appelle l'intersubjectivité, et je vais chercher ma vérité finalement hors de moi. Et c'est ça la thèse existentialiste. Alors ça pourrait paraître un peu abstrait, mais ça veut dire que très concrètement, si je suis chez moi par exemple, en train d'écouter un débat d'idées Ça m'est arrivé hier en écoutant France Inter, l'émission d'Ali Badou sur l'art contemporain.
Oui.
Il y avait d'un côté une voix, on va dire, de réac éclairée, c'était Natacha Polony, et une voix de progressiste, c'était Gilles Finkelstein. Moi, je me retrouve plutôt dans la position de Gilles Finkelstein. Mais j'ai pris un véritable plaisir hier, et je recommande cette méthode à chaque auditeur.
Le grand
j'ai pris
face à face.
Un vrai plaisir à m'ouvrir à la position de l'autre, qui est en l'occurrence Natacha Polony, et je me suis trouvé agréablement chez moi, hors de moi. Et ben c'est ça, ça c'est un exercice au fond qu'on peut faire dès maintenant, alors qu'on est un peu entravé dans nos rencontres effectives par ce semi-confinement ou par ce couvre-feu. On peut s'entraîner comme ça à sortir de soi, tout simplement en écoutant un débat d'idées, ou même si vous voulez, si vous avez des habitudes de lecture par rapport à un journal ou un site, vous pouvez changer de journal, aller voir les infos ailleurs, changer de site,
sortir en restant sur France Inter évidemment,
et tout ça pour essayer d'expérimenter ce mouvement qui fait que vous réussissez à perturber un peu et vos habitudes et vos certitudes, ce qui est déjà le début d'une vraie rencontre.
Tomber le masque, mais au sens évidemment figuré du terme, parce qu'il faut, pour véritablement rencontrer quelqu'un, il faut aussi se laisser aller à une certaine vulnérabilité.
Se rendre disponible, écrivez-vous, dans votre définition de l'agrandissement de notre existence.
Se rendre disponible, ça veut dire aussi se rendre disponible à ce que je n'attends pas. Mmh. Et très souvent, on rate les rencontres parce qu'on croit savoir ce qu'on veut rencontrer, notamment en termes de personnes. J'aimerais rencontrer une personne qui a ses caractéristiques, un homme plus âgé, une femme qui a des enfants.
Ça, c'est une petite annonce matrimoniale que vous êtes en train de
faire. Non, c'est bon, moi, j'ai, ça va pour moi. Et en fait, souvent, on ne comprend pas que c'est ça qui nous empêche de rencontrer quelqu'un. Parce qu'on s'illusionne en pensant qu'on sait ce qui nous rendra heureux. On s'illusionne en pensant qu'on sait exactement ce qu'on désire. Alors que la vérité de l'existence, que rappelle aussi Sartre, c'est que seule la rencontre me dira qui peut me rendre heureux. Je ne peux pas anticiper sur les effets de la rencontre entre l'autre et moi. Et puis vous parliez aussi de vulnérabilité. Et ça, c'est très important parce que très souvent, on a l'impression que pour rencontrer quelqu'un, il faut montrer son meilleur profil, il faut dérouler le storytelling de ses réussites. Et finalement, ça fait souvent fuir les gens, alors que si vous tombez un peu le masque, alors avec tact, avec délicatesse, en étant capable d'afficher quelque chose, peut-être pas tout simplement de plus vulnérable, mais de plus complexe, de plus ambigu, en fait, il y a un échange qui est possible avec l'autre, et l'empathie va commencer à ce moment-là.
Et si on pousse l'existentialisme dans sa dimension plus religieuse, et là vous convoquez le Danois Kierkegaard, il y aurait même un mystère de la rencontre. C'est quoi ce mystère ?
Le mystère, c'est évidemment le mystère de l'autre. Et quand on rencontre quelqu'un, on peut d'ailleurs le rencontrer pendant des années, ce que j'appelle dans mon livre la rencontre continuée, on peut aussi re-rencontrer quelqu'un, parce que l'autre est une singularité dont j'aurais jamais fait le tour. Et la chance qu'on a, nous les humains, c'est qu'on peut comme ça, alors qu'on se connaît, alors qu'on vit ensemble, alors qu'on se fréquente, continuer à être surpris comme ça par le mystère de l'autre. Alors je vous vois sourire, vous dites oui, c'est vrai que peut-être le confinement...
Comment vous
le
voyez sourire, on porte un masque.
Vous avez du sourire dans les yeux. Et c'est que peut-être le confinement nous offre parfois cette chance de re-rencontrer
et de rencontrer notamment chez soi. On va en parler dans un instant. Juste d'autres aspects de la rencontre, elle met aussi en évidence, écrivez-vous, notre libido, hein, c'est-à-dire la façon subliminale dont nous refoulons à la fois notre sexualité, nos pulsions un peu agressives lors d'une rencontre. C'est tout de même une alchimie assez complexe, hein, cette rencontre. Ça repose sur pas mal de leviers.
Oui, alors quand vous parlez de libido, il faut préciser une chose. Il y a deux grandes théories à ce sujet. Une théorie qu'on pourrait dire freudienne, où on pense qu'on a en soi une libido qui attend, au fond, comme une énergie qui est là, qui attend son heure. Dans ce cas-là, on cherche un peu à rencontrer quelqu'un pour satisfaire une libido qui est déjà là. Mais moi, dans le livre, je prends plutôt le parti de Sartre, qui nous explique qu'il y a une énergie ou un désir qui n'est pas là, mais que l'autre va faire naître. Et qui n'est pas comme ça, il va être le déclencheur au fond. Il y a des gens que je ne vais pas désirer avant de les rencontrer. Alors que pour Freud, on a un désir qui est là, et on va chercher quelqu'un pour satisfaire un désir qui préexiste. Je pense que Sartre
c'est pas la meilleure
est plus
façon
intéressant.
D'aimer.
Exactement, on est un peu enfermé en soi. Alors que ce que nous permet de comprendre Sartre, c'est que finalement, si je prends le risque de sortir de chez moi, de sortir aussi de moi-même, de mon identité, si je prends le risque de m'aventurer dans le monde extérieur, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire naître un désir que je ne me connaissais même pas, que je ne soupçonnais même pas.
Et c'est ainsi le sentiment d'avoir déjà rencontré quelqu'un et d'avoir un a priori sur une personne, positive ou négative.
Ouais, alors ce sentiment, c'est un autre signe de la rencontre. C'est le sentiment d'une étrange familiarité alors que je rencontre quelqu'un que je ne connaissais pas. On a tous déjà vécu ça, on se sent très bien avec quelqu'un alors qu'on le rencontre pour la première fois. C'est aussi ce que chante Christophe dans Les Mots Bleus lorsqu'il parle de retrouvailles alors que le narrateur de la chanson veut adresser la parole à quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On peut s'arrêter un peu là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire que je me sente familier avec un inconnu ? Eh bien, ça veut dire que je suis chez moi, hors de moi. On retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis plus chez moi, hors de moi, c'est-à-dire en toi, en ta présence, plutôt que en moi. Eh bien ça a l'air compliqué, mais si on s'y arrête, c'est aussi une définition de la confiance dans la vie. La confiance dans la vie, c'est pas quand je suis bien chez moi, dans mes habitudes et dans mes routines et dans mes automatismes.
Zone de confort.
C'est quand je suis hors de ma zone de confort, hors de chez moi, hors de moi, et que pourtant, je me sens comme chez moi.
Quels sont les signes, vous y consacrez quelques pages, les signes d'une rencontre réussie ?
Alors il y a deux types de signes. Il y a des signes d'une rencontre en train de se faire. C'est le trouble, c'est la curiosité pour le monde de l'autre, c'est le désir de se lancer, le désir d'y aller. Mais ils peuvent être trompeurs, parce qu'on l'a tous vécu, on a ces signes-là, et puis finalement, dans la durée, ça ne se passe pas bien. Et puis il y a une deuxième série de signes qui sont vraiment ceux qui montrent que la rencontre a eu lieu et qu'elle a été en quelque sorte réussie. Et j'en vois deux grands. Le premier, c'est que j'ai réussi à m'ouvrir à la position de l'autre.
Et donc j'ai changé.
Et la conséquence de ça, c'est que j'ai changé. Et je peux observer objectivement.
Je peux même être métamorphosé quelquefois.
Bien sûr, ce changement peut aller jusqu'à la métamorphose. Ça veut dire que j'ai développé en moi des facultés qui étaient en sommeil et qui attendaient leur heure pour se déployer. Ça veut dire bien sûr que j'ai changé dans mes habitudes, peut-être dans mes convictions politiques parfois, dans mes goûts esthétiques. Ça veut dire que je peux observer, je dirais objectivement, pour le dire avec Hegel, une bifurcation existentielle et peut-être même une métamorphose.
Mais le « j'ai changé » n'engendre certainement pas le fait que je me suis oublié, certainement pas.
Alors ça, c'est une très bonne question. C'est pas mal de s'oublier un petit peu quand même, parfois. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait du bien dans la rencontre de l'autre. C'est soudain, je me désintéresse un peu de moi, je m'oublie un peu. Mais comme vous le suggérez, c'est pour mieux me retrouver, mais me retrouver agrandi, me retrouver changé. Alors vous savez, il y a un autre signe pour vous répondre. C'est la responsabilité quand même. Je me sens responsable de toi. Cette fois, nous ne sommes pas simplement croisés, parce que parfois on se croise, on dit j'ai été très heureux de vous rencontrer, mais en fait on a juste croisé quelqu'un, il s'est pas passé grand chose. Mais parfois, quand j'ai vraiment rencontré quelqu'un, quand cette personne m'a touché, d'ailleurs aussi par sa vulnérabilité, je me sens redevable, je me sens responsable de cette personne. Ce que disait Lévinas avec une jolie phrase quand il disait « répondre à quelqu'un, c'est déjà répondre de lui », ça veut dire se sentir responsable. Et ça, c'est un signe important de la rencontre, quand finalement ton existence m'importe au point que peut-être elle m'importe soudain plus que la mienne.
Je voudrais revenir sur ce qu'on a évoqué à l'instant avec cette pandémie aujourd'hui et cette longue séquence de journées rétrécies à 18h et de télétravail qui ne favorise pas la rencontre. Pour vous, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de ceux que l'on connaît déjà, chez soi. C'est peut-être des plus belles rencontres à faire en ce moment.
Bah disons que c'est pas non plus toujours possible, il faut être lucide.
Ça exige,
mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, en fait, on vit quelque chose de très particulier avec cette crise, c'est que le bouleversement des habitudes que je pose dans mon livre comme étant une des conditions de la rencontre, là, nous a été imposé par la crise. Il y a quelques mois, on n'aurait jamais pu imaginer qu'on marche masqué dans la rue, qu'on ne puisse pas embrasser ses propres parents et que nos enfants ne puissent pas embrasser leurs grands-parents. Donc on a là la donnée première de la rencontre, qui est le bouleversement des habitudes. À partir de ça, il y a deux attitudes quand il y a un tel bouleversement des habitudes. Soit on se crispe, on s'accroche, on est un peu comme un crabe qui s'accroche à ce qu'il connaît déjà et à son identité et à ses habitudes et à ses certitudes. Et dans ce cas-là, ça va être mortifère, ça va être une expression de la peur. Soit, et je vais vous répondre, soit on essaye de glisser un peu comme un surfeur, on pourrait opposer le surfeur au crabe, et d'être agile et de pivoter.
Et
dans ce cas, on se dit, qu'est-ce que je peux inventer pour rencontrer mieux la personne avec qui je vis? Qu'est-ce que je peux inventer pour re-rencontrer mon ado que je ne faisais que croiser avant le confinement et que finalement cette crise me donne la chance de rencontrer? Eh bien peut-être on a ce devoir de créativité par rapport à la vie quotidienne, par rapport au sport, par rapport à la méditation, par rapport à une façon de faire la cuisine, une façon de regarder des séries, une façon de se renseigner sur l'information. Et il y a toujours deux attitudes. Soit je réagis à ce qui me fait peur par plus de créativité et d'inventivité existentielle, et dans ce cas-là, je vais pouvoir re-rencontrer quelqu'un. Soit je m'accroche au monde d'avant et aux souvenirs, et ça peut être une crispation identitaire assez mortifère.
Charles Pépin, La rencontre, une philosophie, paru chez Guillaume Allary Édition. Est-ce que vous avez écrit ce bouquin à la faveur de la pandémie qui est née il y a quelques mois, plus d'un an maintenant ?
Figurez-vous que pas vraiment. J'avais commencé à l'écrire avant, Et d'ailleurs, c'est très étonnant et très troublant. C'est que déjà avant, je trouvais qu'on ne se rencontrait pas assez.
Ah ben, vous êtes bien tombé en ce moment.
Et donc j'avais écrit ce livre pour montrer que, donc c'était avant le premier confinement, qu'en raison de certains freins psychologiques, quand on croit savoir ce qui nous rendra heureux, en raison de freins évidemment technologiques, puisque la logique des algorithmes nous enferme dans des bulles d'entre-soi, et que sur Facebook ou Instagram, on a toujours affaire aux posts des gens qu'on connaît déjà et qui pensent comme nous-mêmes.
Et puis qu'on n'est pas forcément très disponible.
On n'est pas assez disponible, et puis on a des habitudes qui nous enferment. Eh bien, déjà, on ne se rencontrait pas assez. Alors ensuite, le confinement est arrivé. Et il m'a malheureusement confirmé dans ma thèse. Alors, je sais pas si vous imaginez comment j'ai vécu la chose, puisque je pensais que déjà avant, on ne se rencontrait pas assez.
Mais là, Charles Pépin, la rencontre, là, on parle beaucoup de rencontres entre personnes, mais ça peut aussi être avec un tableau, avec un livre, avec la musique.
Ah oui.
Là aussi, c'est une vraie rencontre.
Avec un paysage.
Avec un paysage.
Vous avez tout à fait raison. Ce qui compte, c'est ce mouvement par lequel je sors de moi-même pour découvrir que quelque chose qui n'est pas moi m'intéresse beaucoup plus que moi. Alors évidemment, ça peut être le cas avec un film, avec une chanson. Je raconte dans mon livre combien la lecture du Royaume d'Emmanuel Carrère a été pour moi une grande rencontre. Mmh. Moi qui suis plutôt réaliste, plutôt rationaliste, j'ai découvert comme ça, à travers cette lecture de la vie de Jésus, une vision mystique de l'existence.
Il y a aussi d'autres vies que la mienne.
Exactement, et j'ai senti quelque chose bouger à l'intérieur de moi. Et c'est, vous savez, l'intériorité, ça peut s'agrandir, en fait. On peut avoir un agrandissement de son intériorité grâce à des lectures, grâce à de la musique, mais aussi en ouvrant les yeux sur la beauté du monde, sur ses paysages. Et finalement, on l'a tous vécu, hein. Quand on se promène dans la campagne et qu'on rencontre le monde et qu'on a l'impression, finalement, d'être plus chez soi, hors de chez soi, qu'à l'intérieur de chez soi.
Les belles rencontres, ça se prépare, écrivez-vous, ça se prépare par le travail. Une rencontre, ça se mûrit.
Une rencontre, on a dit tout à l'heure, vous vous souvenez, que ça se continuait dans le futur, et ça peut aussi se préparer longtemps en amont, par la curiosité, par le travail, par tout ce qui fait que, quand un jour je serai face à quelqu'un de différent, j'aurai des choses à lui dire, j'aurai des choses à partager.
C'est la rencontre entre Bowie et Lou Reed.
Alors ça, c'est une rencontre très, très, très touchante, parce que vous savez, quand Bowie rencontre Lou Reed, rencontre décisive, puisqu'il en sortira un album incroyable, Transformer, avec tous les plus grands tubes de Lou Reed. En fait, Lou Reed est un peu une tête de lard.
C'est un peu un ronchon.
Il parle pas beaucoup et tout. Et pourtant, la rencontre a lieu. Et elle a lieu et elle produira des étincelles. Parce que depuis des années, sans le savoir, Bowie est en train de préparer cette rencontre avec Lou Reed. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est tellement curieux qu'il écoute ce petit groupe que personne ne connaît, le Velvet
Underground,
dans lequel Lou Reed chante, et il adore cette façon de chanter. Mmh. Ensuite, il a une disponibilité qui fait qu'il passe à l'action et qu'il se déplace très loin de chez lui pour aller assister à un concert du Velvet. Et d'ailleurs, il y a une histoire incroyable, une anecdote très touchante qui fait que Bowie...
C'est qu'il se trompe de concert, en fait.
Bowie ne reconnaît pas que c'est plus le Lou Reed qui chante, parce qu'il a été remplacé par quelqu'un. Et alors qu'il écoute le Velvet depuis longtemps, qu'il est curieux, qu'il se rend disponible, il va le voir dans sa loge et il discute avec lui sans se rendre compte que ce n'est pas lui. D'ailleurs, il reconnaît ça avec une incroyable humilité, ce qui prouve un peu la classe de Bowie. Mais ce que je veux dire, c'est que comment il a préparé cette rencontre ? Par une curiosité de chaque instant, par un passage à l'action en allant se rendre au concert, et aussi par le travail. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en essayant de comprendre comment de telles harmonies étaient possibles, en essayant de comprendre comment on pouvait être tellement en avance sur son temps, si bien que le jour où il le rencontre vraiment, et on pourrait tous en prendre de la graine par rapport aux rencontres futures qu'on pourrait faire plus tard, le jour où il rencontre Lou Reed, chaque mot qui sort de la bouche de Lou Reed résonne différemment, parce que depuis des années, je dirais Bowie, il est en éveil. Comme vous le disiez, il a su se rendre disponible à ce qu'il n'attendait pas. Et d'ailleurs, ce qui surgit ne correspond pas à ce qu'il imaginait. Il n'imaginait pas Lou Reed comme ça, et pourtant il est capable de le rencontrer parce que précisément, il sait accueillir l'inattendu.
J'y vais, je vois.
J'y vais, je vois. C'est un mantra que je propose dans mon livre, qui me paraît être le secret des belles rencontres. Il faut y aller. Parce que si on reste à l'intérieur de chez soi, il ne va rien se passer. Mais il ne faut pas y aller en étant comme le crabe volontariste que j'évoquais tout à l'heure, qui sait ce qu'il veut rencontrer. Il faut, après un premier mouvement d'action volontaire, un second mouvement de relâchement observateur, de lâcher prise, d'observation. Je vois. C'est-à-dire, il faut sortir d'une crispation volontariste tout en profitant du premier mouvement de la volonté et ensuite se rendre disponible à ce que nous ne pouvons même pas imaginer.
Voilà, ces différents types de rencontres, les amours, amoureuses, les amicales, les professionnelles, les hasardeuses, les provoquées, les belles, les rencontres. C'est le propre de l'homme, hein, d'ailleurs, parce que les animaux, on va pas, on a plus le temps maintenant. Enfin, les animaux ne se rencontrent que pour copuler, mais pas beaucoup pour échanger.
Un peu plus que ça, mais ils se rencontrent pas autant que nous.
Autant que
pour
nous.
Pour une raison très simple, c'est qu'ils ne changent pas.
On lira tout cela, c'est passionnant dans votre livre, Charles Pépin, ça s'appelle La rencontre, une philosophie, dans lequel vous évoquez souvent la René Char et sa parole en archipel, ce recueil de poèmes. Et merci de nous avoir confié ce bon livre ce matin. Merci et bonne journée. Il est 8h40.